Bonjour à tous, c'est Pierrot sur RDIWA 107.5 FM. Il y a presque un an, le 11 mars 2011, un séisme suivi d'un tsunami frappait la côte pacifique du Japon. L'accident nucléaire de la centrale de Fukushima en est une des conséquences principales. L'arrêt des systèmes de refroidissement des réacteurs a entraîné une fusion partielle des cœurs de trois réacteurs, provoquant un rejet important de particules radioactives dans l'atmosphère. Après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, Fukushima vient nous rappeler l'incertitude qui plane sur les questions relatives à la sécurité nucléaire en France. Un an après, les choses ont-elles changé? Quelles sont les alternatives possibles à l'énergie atomique? Y a-t-il une réelle volonté des pouvoirs publics à changer les choses? Le sujet du nucléaire est un sujet tabou en France et on peut se demander si la loi du silence ne prend-elle pas le pas sur la vérité. Pour tenter de répondre à ces questions, je reçois Mireille Verdet et Marc Izoard, membres du réseau Sortir du nucléaire. Madame, monsieur, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, le réseau Sortir du nucléaire a lancé le projet d'une chaîne humaine entre Lyon et Avignon. Pouvez-vous nous présenter ce projet ?
Oui, alors c'est un projet national et même international, puisque nous allons accueillir des étrangers, des Anglais, des Allemands, des Italiens, sur des points précis du trajet de la chaîne. Cette chaîne va s'étirer de Lyon à Avignon. Et elle prend de plus en plus d'ampleur, hein, puisque j'ai su hier qu'il y avait plus de 100 cars inscrits déjà pour amener des gens de toute la France, notamment. Sur 10 même, on a déjà un car pratiquement rempli, mais il est question d'en faire un deuxième. Et nous avons été aiguillés sur le tronçon des Tourettes, parce que de Lyon à Avignon, on ne va pas évidemment n'importe où. Ce trajet a été découpé en gros tronçons qui ont eux-mêmes été découpés en plusieurs petits tronçons. Donc nous, on va se retrouver dans le village des Tourettes. Il faut y être à 13h30 le dimanche 11 mars. Donc le départ est prévu du parking de la Vie Claire à 12h. Et on rentrera, on ne sait pas très bien, entre 18 et 20 heures. Voilà, donc je lance tout de suite un appel pour compléter éventuellement le car et en faire un deuxième. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire. C'est paru dans le DIWA, ça va reparaître dans le DIWA les trois samedis qui restent avant cette date. On demande une participation de 10 euros par personne pour financer le car. Donc vous pouvez vous inscrire auprès de moi-même, Marc Izoard, par courrier le cerf de Pi Bouécounier 26150, par mail marc.izoard@orange.fr. Je donne aussi mon numéro de téléphone 04 71 21 19 10. Le plus nombreux que l'on y sera, le mieux ça sera. Nous avons le ferme espoir que tout ce trajet-là de 237 km sera une longue chaîne humaine réelle, avec les gens se tenant la main. Là, voilà, il faut 237 000 personnes.
Alors concrètement, la sortie du nucléaire est-elle possible en France, alors qu'on est le pays le plus nucléarisé du monde ?
Alors effectivement, on nous dit, et c'est vrai, qu'il y a 75% de l'électricité qui est produite en France, qui est produite par le nucléaire. Mais ces 75% de l'électricité ne représentent que 15% de l'énergie consommée en France et seulement 6% dans le monde. Donc il est tout à fait possible de se passer du nucléaire, d'autant plus qu'il existe d'autres façons de produire de l'électricité. Elles ont des avantages, ces autres façons, et des inconvénients, mais aucune ne présente les risques que présente le nucléaire. Le nucléaire présente les risques que nous avons malheureusement déjà expérimentés, indirectement nous, mais des populations directement, à Tchernobyl ou à Fukushima.
En Allemagne, 22% de leurs besoins en électricité proviennent du nucléaire. Ils ont décidé l'année dernière la sortie du nucléaire d'ici à 2022. En France, c'est 78% de l'énergie consommée qui provient du nucléaire. On la remplace par quoi ? Et est-ce qu'on est en mesure de remplacer l'énergie nucléaire par autre chose ?
Alors, je répète bien, il s'agit de 75 ou 78% d'électricité et non pas de l'énergie totale, hein, puisque par ailleurs, il y a d'autres énergies, gaz, pétrole, etc., des énergies fossiles et puis des énergies renouvelables. Alors, est-on capable de le faire immédiatement ? Certainement pas. suivant la manière dont cela est chiffré, on a des projets à plus ou moins long terme. Mais de toute façon, il faut quand même partir du principe que le nucléaire présente un tel danger qu'il faut progressivement le supprimer. Alors, dans quel délai ? Eh bien, tout dépend de l'énergie, alors, l'énergie volontariste que l'on va y mettre. Il y a certainement deux points très importants. D'une part, consacrer autant d'argent que nous avons consacré au nucléaire, le consacrer aux énergies renouvelables, premièrement. Et deuxièmement, apprendre aussi à consommer moins d'électricité. Est-ce que nous n'avons pas tous à faire un effort pour économiser l'énergie et en particulier l'électricité ? Nous sommes dans une société où nous avons appris à gaspiller. Ne devons-nous pas tous faire un effort personnellement pour réduire ces consommations, cette consommation?
Monsieur Isoir.
J'ai un exemple pour ça. Nous sommes en train de participer à une expérience dans la Drôme, mais cette expérience a eu lieu déjà dans tous les départements de Rhône-Alpes. Et cette année, l'Ardèche et la Drôme se sont joints à ce projet. Ça s'appelle Famille à énergie positive. Et dans ce projet, on a des conseils pour limiter notre consommation électrique, justement, par des gestes simples, sans faire de travaux. Il n'est pas question de faire des travaux. L'expérience dure du 1er décembre au 30 avril. Et tous les 15 jours, on relève donc notre consommation. Alors, pour mon cas personnel, l'électricité, le fioul et le bois, puisqu'on a un chauffage aussi à bois. L'expérience montre qu'avec des gestes simples d'économie d'énergie dans les autres départements et sur les années précédentes, la moyenne est de 13% d'économie et certaines familles ont réussi à faire plus de 20%. Alors, pour vous donner des exemples, c'est tout simple, c'est tout bête, mais éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, ne pas laisser les appareils en veille, mettre des rideaux sur les ouvertures qui donnent directement à l'extérieur, qui n'ont pas de volets, par exemple. Voilà, ce sont des gestes tout simples comme ça, qui font des économies conséquentes.
Donc, vous appelez à une prise de conscience et des pouvoirs publics et des citoyens.
Comme l'a dit Mireille, nationalement et internationalement, il y a un gros travail à faire, mais chacun peut compléter cela par un comportement différent vis-à-vis des énergies. Oui.
Pour revenir à ce que disait Mireille Verdet tout à l'heure, un des thèmes de la campagne présidentielle est l'arrêt ou la baisse du nucléaire, avec François Hollande par exemple, qui préconise une baisse du nucléaire, ou avec Eva Joly, qui demande l'arrêt des centrales. Est-ce que ça ne serait pas un effet de mode à l'approche des élections et par rapport à ce qui s'est passé aussi l'année dernière à Fukushima ?
Un effet de mode, certainement pas, parce que lorsque l'on voit les pays voisins et les décisions qu'ils ont prises, on se rend compte qu'il y a quand même un véritable problème qui est posé, problème que l'on connaît depuis longtemps, mais en France, l'énergie atomique a été supportée par les pouvoirs publics et par les citoyens par le biais de leurs impôts, et on a beaucoup misé sur cette énergie et sur l'exportation que l'on pourrait faire de cette énergie. En réalité, il faut peut-être voir qu'il n'y a pas que ce moyen pour augmenter les exportations, d'autant plus que ça n'est pas très important dans notre balance commerciale. Et surtout, il faut mettre en face les risques que nous prenons. Alors, on parle très souvent des problèmes de l'emploi qui serait posé par l'arrêt des centrales nucléaires. Là encore, on entend des choses qui sont absolument ahurissantes, disant « mais alors on va mettre plein de gens au chômage ». Alors, il faut quand même bien se rendre compte que arrêter les centrales nucléaires, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Et il faut savoir que démanteler une centrale nucléaire n'est pas une chose qui peut se faire en deux jours. Donc, entre l'arrêt progressif et le plus rapidement possible, certes, mais qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, le démantèlement et par ailleurs et surtout la montée des énergies renouvelables qui sont beaucoup plus demandeuses en emploi que ne l'est l'énergie nucléaire, la balance de l'emploi ne sera pas déficitaire.
Je voudrais ajouter quelque chose là, oui. Pour démanteler une centrale nucléaire, il faut plus de 30 ans. Les employés actuels des centrales nucléaires continueront à travailler au moins encore 30 ans pour démanteler leur centrale. Et il faut savoir que celle de Creix-Malville, qui est en démantèlement, cela fait plus de 30 ans que ce chantier a lieu. Et Creix-Malville, ça va parler aux Diois, parce que nous avons eu, lors d'une manifestation anti-nucléaire, un mort Diois à Creix-Malville. Donc, c'était dans les années 70, ça fait plus de 30 ans que la centrale est en cours de démantèlement.
Alors, on se retrouve dans quelques instants. Nous allons écouter « Je veux du nucléaire » de Damien Saez, chanson ironique et acerbe sur le nucléaire. A tout de suite.
Thank you.
De retour sur RDIWA, je suis toujours en compagnie de Mireille Verdet et Marc Izoard pour parler du nucléaire. Par rapport aux énergies renouvelables, comment peuvent-elles remplacer à terme le nucléaire? Il va falloir un investissement important de l'État.
Tout l'investissement mis actuellement sur le nucléaire, qui est beaucoup plus cher que les énergies renouvelables.
C'est plus cher?
Oui, parce qu'on nous dit que c'est moins cher, mais on nous cache la moitié des coûts. On n'a pas pris dans le compte des coûts, on ne prend pas justement le démantèlement, on ne prend pas le retraitement des déchets. Donc si on tient compte de ces deux aspects très importants, le nucléaire est bien plus cher et vous le savez, ça a été annoncé très récemment, le coût de l'électricité nucléaire va prendre 30% très bientôt. Enfin, en plusieurs étapes, mais très rapprochées dans les 4 ou 5 ans à venir. L'électricité nucléaire sera de toute façon bien plus chère que l'énergie renouvelable qui, elle, n'a pas besoin d'augmenter son tarif puisqu'il n'y a pas ces problèmes de démantèlement et de traitement des déchets.
Alors, en ce qui concerne d'ailleurs le traitement des déchets, il faut bien voir que pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé de solution pour ce traitement des déchets, même s'il coûte très cher. Dans les solutions trouvées, on a pensé qu'on pouvait les enfouir. Or, on sait aujourd'hui que cela n'est qu'une solution provisoire et que des générations futures vont payer le prix de cet enfouissement, car un jour ou l'autre, les fûts de déchets nucléaires vont, en raison de la corrosion, laisser passer des particules radioactives et c'est des terres entières qui vont être stérilisées et des êtres vivants qui vont être en subir les conséquences. C'est vraiment là un crime contre les générations futures. Le retraitement, eh bien, on sait que malheureusement, il produit des effets qui sont aussi néfastes que la radioactivité directe, même peut-être plus. Et toutes les recherches qui ont été faites à ce jour pour rendre les déchets radioactifs inoffensifs n'ont pas abouti. Et on y a consacré des sommes très importantes. Donc là encore, le coût du nucléaire n'est pas le coût annoncé si on y intègre tous ces problèmes de déchets et de démantèlement.
Il y a une sorte d'omerta de l'État vis-à-vis de ce sujet-là?
Absolument. Mais aujourd'hui, ça n'est plus une omerta, tout le monde le sait.
Alors, on a entendu parler du MOX il y a quelques semaines, qui est un combustible fabriqué à partir de plutonium et d'uranium appauvri. Cela permet à terme de réduire les déchets. Quel est votre avis sur le MOX?
Ça ne les réduit pas totalement. Donc, le problème est résolu partiellement en quantité, si vous voulez, mais il reste une quantité suffisante pour contaminer la planète. Et puis, je dois dire que la France est le seul pays à continuer à produire du MOX. Donc, pourquoi les autres pays l'ont abandonné? Je vous laisse trouver la réponse. Je voudrais revenir sur le nucléaire pas cher. On nous dit que le nucléaire n'est pas cher et qu'il provoque l'indépendance énergétique. Il faut savoir quand même que le 100% de l'uranium utilisé en France pour la centrale nucléaire vient du Niger. Donc il y a une pollution monstrueuse au Niger, au détriment des populations locales qui sont payées à coups de lance-pierre. La Cour des comptes vient de publier un rapport sans appel. Donc le coût moyen du nucléaire en 2010 était de 49,5 euros le mégawattheure, alors que nous le payons 11 euros le mégawattheure et celui de l'EPR était de 90 euros le mégawattheure. En tenant compte de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, du retraitement, et Areva, l'exploitant, va bien être obligé d'augmenter les tarifs pour rentrer dans ses frais. Et puis les réserves d'uranium s'appauvrissent aussi, donc on a le même problème qu'avec le pétrole. Il n'y aura bientôt plus d'uranium, d'où la cherté du produit qui va faire monter encore les prix, comme pour le pétrole donc, et la pollution très importante dans les pays où on extrait ce minerai.
Et qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour remplacer le nucléaire en énergie renouvelable?
Alors, parallèlement à ce que a dit Mireille tout à l'heure sur le démantèlement des centrales, donc du travail qui continue pour les employés, il faut aussi investir dans les énergies renouvelables, les éoliennes, le soleil. En France, on a quand même beaucoup de soleil. et on a du vent. Donc, moi, je préconiserais déjà ces deux moyens-là, ces deux énergies renouvelables-là. Vous avez aussi la géothermie, vous avez l'hydroéolien, c'est-à-dire des éoliennes dans la mer. Il y a tout un panel, mais il ne faut pas attendre les 30 ans maintenant du démantèlement des centrales pour financer des énergies renouvelables et qui remplacent l'énergie nucléaire. Il faut le faire tout de suite. C'est un choix politique, comme l'a dit Mireille tout à l'heure. Ça dépend de l'énergie politique que nos chers politiques veulent y mettre ou non.
Et de la distance qu'elles peuvent mettre avec certains lobbies pro-nucléaires.
Bien sûr.
Alors, le nucléaire permet-il de lutter contre le réchauffement climatique ?
Alors, ce qu'il faut quand même voir, c'est que les activités humaines produisent des gaz comme le dioxyde de carbone qui causent le réchauffement de l'atmosphère et un dérèglement du climat. Bon, c'est le fameux effet de serre. Alors, certes, le nucléaire produit peu de gaz à effet de serre et il est présenté pour cela comme une solution. Mais le premier problème quand même qu'il faut soulever, c'est que l'objectif, c'est de laisser aux générations futures une terre habitable et le nucléaire ne laisse pas une terre habitable. Ça, c'est la première chose. Le nucléaire contamine la planète pour des centaines de milliers d'années. Le nucléaire, par ailleurs, ne solutionne pas le problème du réchauffement de la planète. Il faut par contre, nous, prendre nos responsabilités face à ce réchauffement et voir quelles sont les énergies que nous utilisons et essayer de limiter le développement de ces énergies qui, effectivement, ont un inconvénient majeur, c'est de produire du gaz. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le dérèglement du climat actuel sur notre planète va poser et pose déjà des problèmes à la production d'énergie nucléaire. On a vu, par exemple, le problème de Fukushima, catastrophe naturelle, tsunami, qui entraîne une catastrophe nucléaire. Mais on a des exemples beaucoup plus proches de nous. Par exemple, au moment des grosses canicules, l'eau qui doit refroidir les réacteurs n'est plus assez froide et on doit ralentir, voire arrêter les réacteurs. Bon, c'est un petit exemple, mais qu'est-ce qu'il risque de se produire ? C'est que le dérèglement climatique va poser de très gros problèmes à l'industrie nucléaire et risque fort de nous mettre encore plus en danger.
Et moi j'ajouterais, on n'est pas dans une région de tsunami, mais on est dans une région sismique. Donc on craint les tremblements de terre, bien qu'ils ne soient pas très importants pour l'instant, mais c'est toujours un risque. La vallée du Rhône a quand même 14 réacteurs nucléaires sur les 58 de France, c'est une proportion importante. Voilà pourquoi la chaîne humaine se déroule dans la vallée du Rhône d'ailleurs.
Le ministre de l'Énergie a demandé un audit il y a quelques semaines sur les centrales nucléaires suite à l'intrusion de militants de Greenpeace dans les centrales. Est-ce que vous pensez que les résultats de cet audit sont valables ou ne sont pas cohérents avec la réalité ?
Moi, je dirais en France, on a la spécialité de nous cacher les choses, de nous rassurer, alors qu'on ne demande pas à être rassuré, on demande à connaître la vérité, même si elle est dure à entendre. Cet audit, j'en ai pas vraiment le contenu. Mais il va être, je pense, favorable à l'énergie nucléaire. C'est la position politique française depuis toujours. On veut nous faire croire que c'est la panacée, alors qu'il y a des très gros risques à côté de cette énergie.
Alors, par rapport au problème de sécurité, on a vu par cette intrusion militante de Greenpeace que la sécurité dont on nous vante absolument toutes les garanties n'était absolument pas véritablement sécurisée en France. Et on peut quand même se poser la question si des militants sont arrivés aussi facilement à entrer dans les aires sécurisées de deux centrales, est-ce que pour des raisons de, par exemple, de terrorisme, il n'y aurait pas possibilité d'intrusion. Et puis, on a bien vu, malheureusement, avec la catastrophe de Fukushima, que les dérèglements climatiques provoquaient des accidents tels que n'importe quelle mesure de sécurité ne pouvait empêcher la catastrophe.
Moi, je voudrais simplement ajouter une parole de Stéphane Hessel, qui a, le 17 février de cette année, a confié aux dernières nouvelles d'Alsace son opposition résolue au nucléaire. Hein? Et il dit « Pourquoi est-il important que le nucléaire soit une thématique délibérément avec un enjeu clairement compris ? Parce qu'il ne s'agit pas d'une énergie ordinaire, mais bien une menace pour nous tous, citoyens, citoyennes qui vivons sans en avoir le choix auprès de ces installations potentiellement mortifères. » Et il ajoute que le nucléaire n'est pas une solution au changement climatique. Croire cela, c'est vivre dans une dangereuse illusion.
Voilà, merci à vous d'être venu nous parler de ce projet. Je vous rappelle donc que la chaîne humaine pour sortir du nucléaire à l'initiative du collectif Sortir du nucléaire aura lieu le dimanche 11 mars. Elle s'étendra de Lyon à Avignon. Pour les Diwa qui sont intéressés, rendez-vous sur le parking de la Vie Claire le 11 mars à midi. Des bus seront mis en place. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Marc Isoar au 04 75 21 19 10 ou par mail à marc.isoar@orange.fr ou rendez-vous sur chainehumaine.org pour plus d'informations. N'oubliez pas notre site internet pour les émissions podcastées, www.rdwa.fr. Je vous dis à très vite sur RDWA. Salut, salut!